Chapitre 3 Le château du sommeil. Le château de Fenestrel est certainement un des plus beaux monuments qui nous aient été laissés par la Renaissance, et il reçoit, du printemps à l'automne, deux fois par semaine, jour réservé aux curieux par le comte du Tiellet, des théories ininterrompues de touristes qui viennent le visiter et l'admirer. L'escalier monumental communique avec la cour par deux portes en plein cintre, ornées de bas-reliefs d'une finesse infinie, d'arabesques où le sculpteur a épuisé toute son imagination. C'est un admirable chef-d'œuvre où l'élégance domine et où tout semble avoir été prévu et préparé pour la volupté des yeux. Au pied de la colline où il est bâti, l'Indre se divise en deux bras, et les jardins et les arbres du parc, dépendance du château, s'étendent jusqu'au cours régulier de la rivière. Ça et là, des îlots sont couverts de verdure et de massifs de fleurs, retraites pleines d'ombre, de fraîcheur, de mystère. Le château de Fenestrel appartient au comte Hubert de Tiellet, ainsi que le domaine immense qui en dépend. Et le comte de Tiellet le soigne avec un soin jaloux. C'est un gentilhomme d'une quarantaine d'années, d'allure bon enfant, et qui peut-être eût paru commun, presque vulgaire, si l'on s'était contenté d'un examen superficiel. Assez grand, ce qu'on appelle au-dessus de la moyenne, il paraissait plutôt petit à cause de la largeur de ses épaules massives. Haut en couleur, les cheveux drus, noirs, coupés courts, si courts qu'on voyait la peau du crâne, comme s'il eût été chauve, Hubert avait les mains fortes et les pieds solides. Mais quel grand air de bonté sur ce visage un peu épais! Et quelle distinction, quelle intelligence vive, prime sautière, dans ses yeux bien ouverts d'un bleu pâle aux cils abondants! Les paysans disaient de lui, « Avec ses 300 000 francs de rente, il aurait le droit d'être fier !» Eh bien, pas du tout, hein, il est sans façon. En effet, Hubert du Tiellet était simple et bon. Il aurait pu également ne rien faire, vivre de cette vie de plaisir et d'oisiveté choisie qu'adoptent certains fils de famille. Il avait horreur de rester inutile. Et c'était lui-même, à cheval, tout le long du jour, qui prenait soin du domaine de Fenestrel, dirigeait et choisissait ses coupes de bois, visitait ses métayers, inspectait ses vignes, donnait des conseils pour l'assolement, le drainage ou la culture. Presque toujours vêtu comme ses fermiers, sans recherche d'élégance, cet archimillionnaire, ce gentleman farmer, aurait pu passer pour un avare ou pour un original. L'original, on voit déjà qu'il ne l'était point, mais seulement laborieux. Quant aux reproches d'avarice, chacun savait, aussi bien dans le pays que parmi ses pairs, qu'il ne le méritait pas, car le comte entourait d'un faste inouï, de luxe princier, de prodigalité folle, celle qui, dans ce chef-d'œuvre de la Renaissance, rappelait par sa grâce altière, par sa noblesse d'attitude, par son orgueil et par sa beauté, les châtelaines de l'autrefois, Clotilde du Tiellet, sa jeune femme. Elle l'avait épousé sans amour à cause de son nom et de sa fortune. Mais au bout de quelques années de mariage, entre eux, lentement, jour par jour, s'était creusé un large fossé. Il y avait trop de malentendus, trop de dissemblances de caractère entre cette jolie et élégante Clotilde, éprise de fêtes, de monde, de triomphe, de coquetterie, et ce doux Hercule au goût modeste, heureux de la simplicité de sa vie, dans le ravissant pays qui était le berceau de sa famille. Elle lui avait donné un fils, Urbain, 2 ans après son mariage. Dès que le jeune garçon avait eu l'âge d'aller en pension, on l'avait exilé à Tours. La fenestrelle, Clotilde s'ennuyait. Avant son mariage, Hubert l'avait prévenue pourtant, avait eu bien soin de lui dire: Ah non, jamais je n'irai habiter autre part. Je vous ferai la vie large et fastueuse. Réfléchissez avant de lier votre existence à la mienne. Elle n'avait pas réfléchi. Elle avait eu confiance dans son énergie, dans son astuce féminine, sans prévoir qu'énergie et astuce viendraient se heurter à une volonté inébranlable. Et cependant, il aimait Clotilde, il en était passionnément amoureux, comme au premier temps, et de l'éloignement qu'il sentait parfois chez sa femme, de cette sorte d'indifférence qui tous les jours s'accentuait, il n'était pas sans en souffrir cruellement. Elle lui reprochait sa vulgarité et même le méprisait un peu pour ses occupations auxquelles il s'humiliait, disait-elle, sans comprendre la grandeur simple et forte de ce caractère ni la noblesse de ses travaux. Il refusa de venir s'installer à Paris, même en hiver. Et elle se crut sacrifiée et lui en garda rancune. C'était une vie de princesse pourtant qu'il lui avait arrangée et qu'eussent enviée tant de femmes, mais trop bien réglée pour elle avec des incidents trop prévus. Elle eût voulu le tohu-bohu des fêtes parisiennes et celles que le comte Hubert organisait en son honneur ne lui plaisaient pas. Le château du sommeil, c'était elle, la jolie châtelaine, qui avait ainsi surnommé Fenestrelle en un jour de dépit et d'ennui. Peut-être, mais d'un sommeil si calme, si reposant, et peuplé de si beaux rêves, qu'il fait bon d'y vivre sans jamais souhaiter le réveil. Ce jour-là, pendant que, son bâton à la main, Georges Lamarche arpentait les kilomètres qui le séparaient de Maisons-Bruyères, Fenestrelle était tout en rumeur pour les préparatifs d'une fête de nuit. Hubert avait eu l'idée de reconstituer, dans ce chef-d'œuvre de la Renaissance, un bal du XVIIIe siècle. Depuis longtemps, il y pensait, et les invitations avaient été lancées. Gentilshommes ou nobles dames, en costume Louis XV ou Louis XVI, allaient errer tout à l'heure dans les mystérieuses allées du parc, dans les massifs parfumés des îlots de l'Indre, pendant qu'au loin, un orchestre, venu de Paris, uniquement composé d'instruments anciens, jouerait sur le clavecin, la vielle, la jolie musique des temps passés. Pendant cette journée, le comte affairé d'habitude et joyeux pour Clotilde de la distraction de quelques heures qu'il lui ménageait ainsi, avait toutefois paru très sombre et préoccupé singulièrement. Le matin, un facteur avait demandé à parler à M. du Tillet, auquel il voulait remettre une lettre recommandée. Le comte avait lu cette lettre. Et pendant cette lecture, le facteur avait pu remarquer sur le visage de M. du Tillet une pâleur extrême, puis je ne sais quelle colère et quel soudain mépris dans les yeux. De sourdes exclamations lui échappèrent, mais devant l'homme, il se contint. Quand le facteur fut parti, le comte relut la lettre, la froissa dans ses larges mains, la jeta sur le sol, la piétina dans une rage qui le bouleversait, lui si calme toujours et si doux. Il la ramassa pourtant, la jeta dans la cheminée et la brûla. Il ne faut pas qu'on sache jamais, murmura-t-il, le misérable, lui que je croyais mort depuis longtemps. Et c'est lui, mais c'est bien lui. Il rentra dans son cabinet de travail et s'y tint enfermé pendant longtemps. Sa femme le fit demander, l'envoya chercher. Il ne répondit pas. Il n'avait pas entendu. Quand il reparut devant elle, il était toujours très pâle. Elle se méprit et dit ironique. Est-ce donc l'approche de cette fête qui vous rend triste à ce point? Je sais qu'il vous est pénible de changer votre vie et de modifier même pour un jour vos habitudes d'extrême régularité. Quand je suis joyeuse, vous êtes sombre. Et quand j'ai envie de pleurer, à force d'ennui, c'est vous qui êtes plein de joie. Il lui adressa un long regard navré. Non, vous vous trompez, Clotilde. Je suis heureux de votre bonheur. Il ne lui en dit pas plus et sortit. Elle le regarda s'en aller, subitement inquiète. Elle avait cru deviner dans son air comme une menace. Un tressaillement léger effleura ses lèvres hautaines, et ses yeux se voilèrent. Et sans doute n'était-elle pas sans reproche, et sa vie de jolie femme ennuyée cachait-elle un mystère coupable, car elle murmura. Est-ce qu'il se douterait de quelque chose? Puis elle haussa les épaules et dit. Non, c'est impossible. Elle n'y pensa plus. Le comte était descendu jusqu'à l'Indre. Là, les ouvriers occupés dans le parc et dans les îlots aux préparatifs de la fête du soir l'avaient perdu de vue. Il était resté parti environ 2 heures. Mais lorsqu'il rentra, il sembla très agité. Son visage était enfiévré et ses yeux étaient rouges comme s'il venait de verser des larmes. Cet état singulier dura toute l'après-midi, malgré le mouvement qu'il se donna et les ordres qu'il multipliait autour de lui. Vers 5 heures, le son lointain de la cloche qui sonnait à l'église de Pont de Rouen frappa ses oreilles. Il écouta le glas, lent et profondément triste. Qu'est-ce donc? Demanda-t-il à un ouvrier qui rentrait. Ben, c'est le petit dernier de la Pocharde qui vient de mourir, dit l'homme. Il paraît que le mari rôde aux alentours sans oser se montrer, le pauvre garçon. Hubert remonta vers Fenestrel par une allée bordée de platanes. En haut de l'avenue, il vit venir à lui 2 hommes, entre lesquels marchait la comtesse de Thiellet. Il les reconnut de loin, Matisse et le docteur Renneville. Il s'approcha. Dans le fond de la vallée, la cloche funèbre tintait toujours, et c'était de l'enfant que Renneville parlait. « Je n'ai pas pu le sauver, disait-il, et j'ai de si graves soupçons que je considère comme de mon devoir d'en avertir la justice. »« Vous croyez à un crime ?»« Oui, cette malheureuse a tué son enfant. »« Mais c'est horrible, murmura Clotilde. » À cette accusation si précise et si terrible, Matisse n'avait pu retenir un brusque mouvement, et sa main passa sur ses yeux pour en voiler l'épouvante et le trouble. Un banc était derrière lui, il s'y affaissa, l'air égaré. La comtesse seule y prit garde. Le comte et Renneville s'éloignaient. Clotilde dit à Matisse à voix basse, « Mais qu'avez-vous? Que se passe-t-il? On dirait que vous vous trouvez mal. » Déjà, dans un suprême effort, il avait retrouvé son sang-froid. « Oh non, je n'ai rien, merci. Je suis ému, mais c'est parce que j'éprouve de la joie, une bien grande joie, en sachant que, bientôt, tout à l'heure, au milieu de la fête de cette nuit, personne ne nous observera. » Il s'arrêta, se leva, et penché sur elle, près de la nuque, et que je pourrais presque librement te dire et te redire 100 fois combien je t'aime. » Elle l'écouta, les paupières closes, une pâleur voluptueuse sur le visage, une extase dans un sourire prêt au baiser. « Je t'aime, dit-elle, ce soir vers 9 heures. Tâche d'échapper à la fête, de sortir sans être vue, et viens me rejoindre près de la chapelle, aux ruines du prieur de Relais. » Mais le comte était en train d'entraîner Renneville vers le château. Monsieur du Tillet désirait depuis longtemps acheter au docteur une propriété, grand champ, qui bordait le domaine de Fenestrel. Comme le docteur était riche et n'avait pas besoin de vendre, il avait résisté. Finalement, presque à contre-cœur, il avait cédé aux instances amicales du comte et ils étaient convenus du prix de 300 000 francs. La vente était en règle, les notaires avaient passé par là. Et Thiellet, en écrivant à Renneville pour l'inviter à sa fête, l'avait prévenu en même temps que ce même soir, il lui verserait les 300 000 francs. « Venez, docteur, dit-il, nous allons régler cette affaire tout de suite. Tout à l'heure, mes invités vont arriver, je n'aurai pas le temps d'y songer. » Ils s'enfermèrent dans le cabinet du comte. Là, Thiellet resta un moment pensif, le front dans ses mains, absorbé. Oh, « mon ami, dit-il, je comptais vous verser aujourd'hui la totalité de la somme. Mais il m'est survenu dans la journée un paiement imprévu. Il ne me reste que 200 000 francs. Inutile de vous dire, n'est-ce pas ? Ajouta-t-il en souriant tristement, qu'après-demain, vous aurez le reste. J'ai écrit ce soir, dans 2 jours, l'argent me parviendra. Bon, je ne suis pas pressé, et pour peu que vous ayez besoin de cette somme, gardez-la aussi longtemps que vous voudrez. Non, merci. » Son visage exprimait en cet instant une si profonde angoisse que le docteur en fut frappé. Et prenant les mains du comte, « Mais je suis votre vieil ami et j'ai été souvent votre confident. Qu'y a-t-il ? » Des larmes apparurent dans les yeux de monsieur du Tillet. Cependant, il eut vite dompté ce moment de faiblesse. « Bien, j'ai reçu aujourd'hui une lettre, dit-il, une lettre recommandée. Elle était de lui. » De lui dont je n'avais plus entendu parler depuis 20 ans, de lui que je croyais mort. « Il vit, oh mon Dieu !» fit le docteur se levant brusquement. « Oui, il me donne un rendez-vous. J'y suis allé. Il m'a demandé 100 000 francs pour disparaître de nouveau. Je lui ai donné et il est parti. » « Et depuis 20 ans, qu'a-t-il fait? Qu'est-il devenu? »« Oh, je ne sais pas. Je n'ai pas voulu l'interroger. J'ai eu peur. » Les deux hommes restèrent silencieux, emportés par leurs souvenirs. Puis le comte se leva. « Enfin, il est parti, dit-il, et peut-être je ne le reverrai jamais plus. » Renneville avait serré les 200 billets de 1 000 francs que le comte avait tout à l'heure alignés devant lui. Il les mit dans un vieux portefeuille usé dans la poche intérieure de son habit. Et par une habitude de vieillard prudent, mais qui se savait distrait, il accrocha la poche avec une épingle pour empêcher le portefeuille de glisser. Ils descendirent tous deux dans les salons. Des roulements de voitures, sans cesse renouvelés, annonçaient l'arrivée des invités. Le comte, oh, il le fallait, reprit son air souriant et heureux. « Je vais rester 1 heure ou 2 pour juger du coup d'œil, » dit le docteur. « Bon, je suis vieux, je n'aime pas me coucher tard. En outre, avec 200 000 francs dans ma poche, je ne tiens pas à me promener au milieu de la nuit. » Dans les coteaux de l'Indre, il y a un tas de roches et de grottes qui donnent asile tout l'été à des vagabonds. Oh, ils auraient la partie trop belle à vouloir que fouiller. Ne partez pas sans me dire adieu, je suis triste. Je vous le promets, mon pauvre enfant, dit le vieillard avec bonté. Je vous accompagnerai jusqu'à Maison Bruyère. À partir de là, vous serez en sécurité. Oh, mon long, je ne crains rien, je ne crains rien, dit le docteur en riant. Et ils se séparèrent. Les salons s'emplissaient. Toute cette foule, en riche costume, se croisait, glissait dans les salons, formait des groupes au hasard des conversations ou des sympathies, affectait la politesse suprême, les allures compassées, les minauderies de l'ancien temps disparu. En costume, Marie-Antoinette, de laquelle elle avait du reste la grâce hautaine, Clotilde du Tiellet triomphait. À plusieurs reprises, après le dîner, Hubert s'était approché d'elle, et humble, timide, quêtant un sourire, « Du moins, ce soir êtes-vous heureuse ?» Elle ne répondait même pas. Ses yeux seulement se faisaient plus durs, se chargeaient pour le rustre d'un peu plus de mépris. Et quand il s'était éloigné, parfois, soudain, un souffle sur sa nuque, avec un mot de passion, la faisait frissonner toute. « Je t'aime !» À peine si elle se retournait, elle savait bien que celui-là, c'était Matisse, l'amant. Et la tête un peu penchée en arrière, elle murmurait « N'oublie pas, vers 9 heures, au prieuré de Relais, je t'aime !» La nuit était très belle, très calme. Vers le soir, au coucher du soleil, des nuages s'étaient montés dans le ciel, avaient fait craindre de la pluie, mais ils s'étaient dispersés. Le soleil n'était plus là, mais le ciel restait bleu, avec d'innombrables étoiles, et déjà la lune, lentement, montrait sa grosse face derrière les chaînes des coteaux. Les seigneurs Louis XV et Louis XVI, les dames de la Régence, descendaient avec des grâces nonchalantes par les avenues bordées de beaux arbres, parfumées de fleurs rares, et se perdaient dans les labyrinthes des massifs délicatement entretenus. Non seulement tous les costumes de l'époque, mais toutes les coiffures étaient là représentées. Et sous ces coiffures singulières, que de figures charmantes de finesse, enfiévrées de plaisir, aux yeux éclatants de jeunesse et d'entrain. Et elles allaient dans la nuit, glissant comme des fleurs animées, dans l'or, dans la soie, la gaze et le brocart. Le docteur Renneville rejoignit Hubert vers le pont de l'Indre. « Votre fête est merveilleuse, j'en suis tout ébloui, » dit-il en souriant. « Mais j'ai 70 ans et mon oreiller me réclame. Au revoir. Restez, je vous en prie, ne vous occupez pas de moi. » Hubert secoua la tête. « Non, j'ai besoin moi-même d'échapper à toute cette joie qui est mon œuvre et de chercher un peu de calme dans la solitude des champs. Venez. » Il prit le bras du docteur, traversa le pont. Et sur l'autre bord, tous deux, d'un pas lent, disparurent dans les bois en échangeant à voix basse des confidences. D'une futaie de hauts sapins enclavés dans le parc et sous laquelle tout était nuit, tout était ténèbres, Clotilde Lévy, Hubert et Renneville s'en allèrent ainsi. Elle les suivit de loin, personne autour d'elle. C'est à peine si, là où elle se trouvait, on percevait la mélodie fatiguée d'un menuet qui semblait rythmer là-bas comme une musique irréelle, une musique de rêve. Elle entra dans un kiosque, sorte de chalet norvégien, dont elle avait la clé, y chercha à tâtons un long manteau sombre à capuchon dont elle se revêtit, dont elle cacha sa riche parure, et par des sentiers étroits, elle se glissa dans le plus épais du bois, sur le chemin du prieuré de Relais. En bas, la vieille église de Pont-de-Rouen sonnait 9 heures. Elle sonna impassible. Elle vit la vieille église, passèrent Renneville et le comte qui se parlaient bas. Et de ces deux hommes, le vieillard à 7 heures n'était point Renneville. C'était le doux Hercule, affaibli ce jour-là par de mystérieuses tristesses. Elle vit de son court clocher fendu, ouvert à tous les oiseaux nocturnes, et qui bien des fois, au temps d'esclavage, avait sonné le tocsin. Elle vit passer furtivement un fantôme, souple et svelte, de jeune femme qui se cachait et dont le cœur bondissait malgré son audace. Elle vit un jeune homme qui se cachait aussi et marchait, courbé, dans le sillon de ce fantôme, attiré par cette élégance, enivré par cette beauté, dompté aussi par cet orgueil qui pour lui s'était abaissé. Clotilde et Matisse. Elle vit tout cela, mais elle en avait tant vu. De ses yeux étroits, de ses fenêtres à linteaux, longues et percées comme des meurtrières, ouvertes au sommet de ses murs, depuis 12 ou 15 siècles, elle en avait tant vu la vieille église. Elle en avait tant vu de ses galantes aventures, de ses amours chastes et coupables, tant vu de ses chevauchées de la nuit par des hommes d'armes en quête de ripaille, tant vu de catastrophes de bataille et de sang répandu. Elle sonna de rechef 9 heures et s'endormit dans son indifférence, dans son recueillement.